au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Puisqu'il s'agit d'une émission littéraire, nous allons rendre compte d'un livre rédigé par l'un de nos collaborateurs que vous connaissez bien, si vous êtes familier de notre émission Au fil des pages, puisqu'il s'agit de Jean Mauduit qui anime sur notre radio la chronique Les femmes écrivains et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire et notamment une histoire de la séparation de l'Église et de l'État qui a été couronnée par l'un des prix de l'Académie française et d'une série de romans historiques de l'époque Mazarin. Et ici, nous sommes tout près de la bibliothèque Mazarine. Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Hélène.
Le dernier né de vos livres, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du roman, c'est une biographie. Et cette biographie, nous avons plusieurs raisons d'en parler. D'abord pour vous faire plaisir, Jean Mauduit, mais ça n'est pas peut-être la raison principale.
J'espère.
Voilà. En tout cas, c'est parce que cette biographie est consacrée à l'un des membres qui est correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques, donc correspondant de l'Institut, Denis Huysmans. Alors, elle s'intitule, cette biographie, « Denis Huysmans, une fin si dévorante » et elle est parue aux éditions Jean Picolec en 2009. Alors, Denis Huysmans, c'est un ami de longue date, Jean Mauduit, pour
oh,
vous ?
Oh, c'est un ami de 40 ans.
40 ans, ça commence à faire.
C'est un ami proche, c'est un frère, mon petit frère, il a 8 ans de moins que moi. Et nous sommes liés par une affection fidèle à travers les vicissitudes de sa vie. Et les miennes.
C'est évidemment difficile de résumer ce personnage en quelques mots parce qu'il a beaucoup de facettes. On ne va pas raconter ici toute sa vie, bien sûr, mais s'il fallait résumer Denis Huysmans, que diriez-vous, Jean ?
Oh, un enfant malheureux.
Un enfant malheureux, pas oui. Un philosophe ?
Oui, accessoirement. Dire que l'enfance malheureuse inspire beaucoup d'actions, de réflexions. Oui, c'est un philosophe, c'est encore plus un extraordinaire pédagogue de la philosophie, un pédagogue tout court. Un pédagogue de la philosophie, lui, a écrit un traité de philosophie, un manuel plutôt de philosophie.
Avec beaucoup de succès.
Oui, qui a fait plus de 5 millions de ventes, ce qui est, je crois, unique dans l'histoire de l'édition scolaire, universitaire.
C'était le manuel Huysmans-Vergès, c'est
ça ? Tout à fait, Huysmans-Vergès. Et le propre d'un pédagogue de la philosophie, c'est de s'imprégner de la pensée des autres, parfois au détriment de l'expression de la sienne. Donc c'est surtout un pédagogue de la philosophie. C'est en même temps un satrape, un jouisseur, un homme fidèle, fidèle à ses amis, pas
à ses femmes, disons-le, non. Mais enfin.
Fidèle à ses amis, généreux, et qui promène dans la vie, si je puis dire, cette espèce d'anxiété créatrice qui le caractérise.
Quand vous dites, Jean Mauduit, que c'est un enfant malheureux, c'est comme ça que vous avez défini d'abord Denis Huysmans, oui. On peut tout de même s'étonner un peu, puisque son histoire, elle commence à la fois bien et mal, mais enfin, il naît dans un milieu très aisé. Disons-le tout de suite, ce n'est pas un enfant battu. Ce
n'est pas du tout un enfant battu, et c'est un enfant qui vit sa première enfance dans les palais de la République. À 3 ans, il est à l'Élysée.
Oui, son père est secrétaire général de l'Élysée, ce qui n'est pas rien,
tout
de même.
Ce qui n'est pas rien du tout. Et Denis Huysmans rencontre le président Doumer. Il manque même un jour de, je ne dirais pas de le tuer, mais enfin de le blesser, parce que se disputant avec ses deux frères, qui naturellement le tyrannisent, fou de colère, il prend un coupe-papier en forme de poignard, le lance par la fenêtre ouverte, et le coupe-papier frôle la tête du président Doumer, tombe à ses pieds. Le président Doumer, très calme, ramasse le coupe-papier, montre du doigt la fenêtre où est apparu Denis Huysmans, tout effrayé de ce qui arrive, et lui, oh, c'est vilain ça. 3 semaines après, Paul Doumer mourra assassiné sous les balles de Gorgoulov. Alors du coup, voilà le malheur qui arrive, parce que les Huysmans sont obligés de quitter l'Élysée.
Pas à cause de cet événement, disons-le, à cause des événements politiques.
À cause de l'événement politique.
De l'assassinat de Doumer.
L'assassinat de Doumer. Le père, pour autant, retrouve une fonction tout à fait importante auprès du président du Sénat. Donc la première enfance de Denis Huysmans, ce sont des années dorées, on peut le dire. Non seulement parce qu'il vit dans l'or des palais de la République, mais parce que c'est son père, qui est devenu directeur général des Beaux-Arts, fréquente tout ce que l'époque, et Dieu sait s'il y en a, compte de grands écrivains, de grands peintres, de grands sculpteurs. C'est une enfance sublime. Si ce n'est que Denis Wissemont a 10 ans lorsqu'arrive la guerre et la défaite, et avec elle, la catastrophe.
Alors évidemment, il y a l'exode, ses parents vont partir. J'allais dire, c'est le cas de nombreux enfants. Il n'y a pas que lui, évidemment, auquel c'est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il y a une exception pour lui?
À ceci près, en effet, que son père fait partie, son père, ses parents, fait partie de ceux qui ont mal choisi, non pas politiquement, mais en termes de destinée, qui sont embarqués à bord du célèbre Massilia. Ce bateau à bord duquel on a fait embarquer beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de grands fonctionnaires, comme Georges Wissemont, en leur faisant croire qu'ils vont pouvoir aller continuer la guerre, continuer la lutte en Algérie. En réalité, c'est un piège abominable qui a été tendu par Pierre Laval, devenu entre-temps président du Conseil. Pétain est arrivé au pouvoir, mais c'est Laval qui manœuvre les fils. Et ordre est donné au Massilia de changer de route et d'arriver au Maroc. Or, si l'Algérie, à l'époque, est un département français, si donc c'était un repli sur le territoire national, le Maroc, même s'il est sous protectorat, s'il a été longtemps sous protectorat, n'est pas considéré comme faisant partie du territoire français. Ergo, les embarqués du Massilia deviennent des fuyards et des traîtres. Ils vont être arrêtés, pour la plupart d'entre eux, à leur arrivée à Casablanca. Georges Wissemont, pour son compte, va essayer de se battre, d'obtenir qu'il puisse rentrer en France, etc. etc. Nogues, le résident général, le lui refuse. Et les Wissemont, pendant 2 mois, vont errer en Afrique du Nord. De Casablanca, ils arriveront à partir pour Alger. Et là, ils vont vivre très cruellement le fait qu'on les considère comme des traîtres.
Traîtres d'un côté, juifs de l'autre, d'ailleurs. Traître évidemment,
côté,
s'il rentrait en France, ce serait pas mieux.
Tout à fait. Et Denis Wissemont va passer sans transition de cette vie confortable, dorée et prestigieuse qu'il menait à la vie de traître, d'émigré, de représentant d'une religion onni. La propagande de Vichy, entre-temps, a fait son œuvre. Et Georges Wissemont va ajouter à ce mauvais choix, ce choix erroné, s'être embarqué au bord de Massilia, un deuxième mauvais choix. Il veut absolument rentrer en France parce qu'il est honnête, parce qu'il veut se justifier, sa conscience n'a rien à lui reprocher, parce qu'il veut se justifier devant les pouvoirs publics, et il rentre en France au mépris du danger. Et effectivement, on va le lui faire payer très cher. Et les Wissemont vont se retrouver dans deux pièces cuisine au 7e étage d'un immeuble de rapport dans la banlieue de Marseille et y vivre des mois, des années d'angoisse. D'autant que, bien sûr, en 1942, la zone dite libre ne l'est plus du tout. Les Allemands ont envahi la totalité du territoire, sauf la zone impartie aux Italiens. Et là, Georges Wissemont, qui au surplus est imprudent, parce qu'il se livre publiquement à la terrasse des bistrots à des imprécations contre le maréchal, ce qui lui vaut d'être emprisonné d'ailleurs. Il ne sortira de prison que grâce à l'amitié de Roland d'Orgelès, son grand ami, qui sera d'une fidélité extraordinaire pendant toute cette période. Et Georges Wissemont va finir la guerre enterré, il n'y a pas d'autre mot, dans le sous-sol, la cave d'une petite fermette à 9 km de je ne sais plus quelle ville de Provence. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le rouge et le noir dans un autre sens.
Alors, on parle beaucoup du père, Georges, parce que ça explique évidemment après cette enfance malheureuse du fils dont vous écrivez la biographie, puisque le fils, c'est Denis Wissemont.
Oui, c'est Denis.
Mais on ne peut pas échapper à raconter l'histoire de l'enfance.
Non, parce que la relation père-fils, en l'occurrence, a été déterminante pour Denis Wissemont. Une relation faite d'une immense admiration et en même temps d'une révolte. Pourquoi la révolte? Je ne suis pas psychanalyste, mais le fait est que Denis Wissemont va orienter sa vie professionnelle, en partie du moins, par défi contre l'autorité du père.
Que va-t-il faire ? On suppose qu'il fait des études brillantes, évidemment.
Il est ultra brillant.
C'est un travailleur acharné, il travaille nuit et jour.
Oui, tout à fait.
Que va-t-il faire alors de...
Alors, il est ultra brillant au point, mais c'est une anecdote significative, au point qu'ayant obtenu dans le lycée qu'à l'époque il fréquente à Marseille, tous les prix, sauf un, le prix de latin, il se voit refuser le prix d'excellence. Donc il éprouve sur sa personne... La malédiction,
déjà un rejet.
La malédiction juive. Mm. Bon. Alors, ce garçon ultra brillant fait des études brillantes, mais ne sera jamais agrégé, n'entrera pas à l'école normale supérieure, se contentera de collectionner les licences. Il en a, je ne sais plus combien, 3, 4, 5, en psychologie, en métaphysique. Enfin, bon. Il fait le tour, en quelque sorte, de la citadelle universitaire. Il n'y entre pas. Il n'y entre pas en partie parce que s'étant marié jeune, ayant eu rapidement un enfant, Arnaud, il a besoin absolument de gagner de l'argent, surtout qu'à l'époque, il fait très froid. Très, très froid. Ce sont des hivers très rudes que nous avons connus dans ces périodes. Nous sommes là maintenant, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas encore de réchauffement climatique. En tout cas, à Paris, le climat est très froid l'hiver, très très froid. Et ce malheureux dénivissement a l'inconvénient d'habiter une grande maison, au deuxième, troisième étage d'une grande maison, où fonctionnent des radiateurs absolument boulimiques, qui lui coûtent un argent fou, et il a besoin d'argent. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il donne des leçons particulières. Il se débrouille, il court tout Paris pour trouver des bouts d'enseignement.
Il travaille nuit et jour.
Il travaille nuit et jour. Il arrive à joindre les deux bouts, mais évidemment, on ne peut pas préparer l'entrée à l'école normale et encore moins l'agrégation dans ces conditions. Et son père est évidemment contristé. Georges Huysmans, qui lui a toutes les huiles saintes agrégées, il a été ministre des Beaux-Arts par le fait. Il était directeur des Beaux-Arts, mais en fait, il régnait sur la culture française dans sa totalité. Georges Huysmans est accablé. Et Don Huysmans refusera toujours le diktat de l'université, en refusant du même coup, d'une certaine façon, le diktat de son père. Et il va être cet éternel révolté contre l'université.
Mais l'université va lui faire payer cher, car très les
cher.
Universitaires n'aiment pas ceux qui marchent sur leur plate-bande tout en n'étant pas de leur clan, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et c'est davantage qu'une différence de clan, c'est une différence de, j'allais dire, de... conceptuel. Denis Huysmans a vite compris que l'enseignement tel qu'on le pratique à l'époque à l'université est un enseignement abstrait, abstru, complètement déconnecté de la vie, alors que lui, Denis, assigne une toute autre mission à l'enseignement, c'est former des hommes pour travailler dans la cité des hommes. Et il a compris que l'enseignement n'a de sens que s'il débouche sur... Allons, disons-le, un métier, une profession,
donc
une insertion dans la vie.
Il est un reproche vivant au système universitaire.
Il est un reproche vivant au système universitaire. En plus, le succès de son manuel de philo, 5 millions d'exemplaires, en soi est un scandale.
Bien sûr.
Et puis, d'aventure en aventure, car il serait trop long, en effet, de raconter par le détail, d'aventure en aventure, il va multiplier ce qui est reçu comme autant de provocations. Un exemple, entre autres, obligé de chercher un local pour l'école qu'il a créée, qui n'est pas encore l'EFAP, qui s'appelle, je crois, le cours de Huysmans. Il est tombé, juste avant la rentrée, sur un drôle de local qui est inoccupé dans la journée, qui donc peut abriter des cours. Sauf que, visiblement, c'est un local qui abrite un club de rencontres.
Ah,
un club
de chance,
rencontres.
Oui.
Disons sentimental, ce n'est pas une maison de passe, mais c'est l'endroit où des demoiselles esselées et des messieurs conquérants viennent nouer de tendres relations. Et il se fait qu'un inspecteur est délégué par l'Éducation nationale pour aller valider le local.
Et il se trompe de porte.
Quelle n'est pas la stupeur. Non, il ne se trompe pas de porte, mais il se trouve dans un local où les murs sont peints en rose, où il y a des cœurs brisés. Qui décore les...
Alors ça fait mauvais genre, évidemment.
Ça fait très mauvais genre. Bon, finalement, Denis Huysmans va comparaître devant un jury, il n'y a pas d'autre mot, du rectorat. Il n'échappera que de très peu à l'exécution capitale, c'est-à-dire à l'interdiction d'enseigner.
Si vous voulez bien, Jean, parce que quand on parle d'un livre, et là nous parlons de votre livre Denis Huysmans, Une fin si dévorante, chez Picolec, je voudrais en lire un petit bout. Vous m'autorisez à lire un petit bout ?
Mais avec plaisir.
Denis Huysmans commence à attirer sur lui l'attention réprobatrice de ses pairs. Il ne fait rien comme les autres et cela agace. Surtout, il accumule les succès. La réussite en France n'est pas populaire et a fortiori lorsqu'elle s'accompagne d'une prospérité visible. Et Denis Huysmans ne cherche pas à cacher la sienne. Cette année-là, toutes les composantes de sa personnalité deviennent suspectes et pour un peu haïssables. Son audace est considérée comme de l'impudence, sa ténacité devient de l'entêtement, ses victoires sont attribuées à la chance et sa boulimie de fonction, d'honneur, de titre, achève d'attirer sur lui méfiance et jalousie. Il est tentant de dire que Denis n'a pas encore réussi à vaincre son enfance. Y parvient-on jamais ? Tentant aussi de rechercher dans cette course effrénée à la possession, on ne sait quel besoin de survie hérité des premiers âges de l'existence, j'y vois surtout, ce n'est pas contradictoire, le fruit d'une immense angoisse, le besoin de dresser des digues contre la mer, point d'interrogation, le vide, le temps, la mort. Ces quelques lignes donneront un aperçu, Jean Mauduit, de la manière dont vous écrivez, avec des mots extrêmement justes, choisis pour décrire des sentiments ou des sensations, et aussi avec délicatesse, car si le personnage vous est sympathique, vous ne lui dressez pas tout de même des lauriers excessifs.
Bien sûr que non, je suis conscient de ses défauts, c'est le propre de l'amitié et du respect sincère. Ces défauts sont évoqués dans les quelques lignes que vous venez de lire. C'est cette boulimie, en effet, d'où le titre du bouquin, Une faim si dévorante. Il a faim de tout. Il a faim tout court. Il mange beaucoup à l'époque, aujourd'hui moins sûrement. Il mange beaucoup, souvent il vient picorer dans les plats de ses invités. Il a faim d'honneur, de titre, il a faim de femme.
On appellerait ça des compensations, tout simplement.
Il compense énormément, effectivement.
Cette enfance que vous avez si bien décrite. Vous avez aussi, dans votre livre, tenté de décrire justement sa philosophie, puisqu'il a été l'auteur d'un manuel de philosophie. Oui. On ne peut pas dire un philosophe au sens propre du mot, tel qu'on les connaît actuellement.
Oui.
Mais donc, ça a été très difficile. C'est un chapitre dont je recommande tout particulièrement la lecture.
Oui. À la vérité, Denis Huysmans, je l'ai dit tout à l'heure, est plus un pédagogue qu'un philosophe. Encore que je ne lui dénie pas la dignité de philosophe. Disons que si on veut explorer sa pensée personnelle, bon, il a été longtemps séduit par Sartre, par l'existentialisme de Sartre. Et puis, il donnera surtout dans l'existentialisme chrétien. C'est curieux. Ça ne veut pas dire qu'il va se convertir, à la différence de Gabriel Marcel, qui est son ami, son maître, son mentor. Mais enfin, Gabriel Marcel, que j'ai bien connu personnellement, va le tirer vers une vision de la vie d'où la pensée de Dieu n'est pas absente. Et comme Denis Huysmans transforme en pédagogie tout ce qu'il touche, il devient, dans les innombrables cours privés où il instrumente à l'époque, en quelque sorte le spécialiste des preuves de l'existence de Dieu.
Ce qui est paradoxal.
Et il fascine ses élèves parce qu'il est extrêmement brillant dans cette démonstration. Et notamment, il insiste sur la preuve de saint Anselme, je crois, selon laquelle Dieu, qui par définition possède toutes les perfections, ne peut pas ne pas compter l'existence au rang de ses perceptions. Bref, Denis admet l'existence de Dieu. C'est plus commode de concevoir un monde sur lequel règne la pensée de Dieu. C'est plus commode intellectuellement, moralement aussi, probablement. Mais ce christianisme, j'ose pas dire non, cette foi en pointillé à ses limites, ayant une discussion il n'y a pas tellement longtemps avec lui, je lui ai dit que quant à moi, j'étais tout à fait convaincu de retrouver, je ne sais pas où, ailleurs, au-delà, les êtres que j'ai aimés. Lui m'a avoué que pour lui, non, la mort était sans retour, qu'il n'avait pas ce recours-là, et Dieu sait si la mort l'a visité.
Oui, justement, vous avez dit que c'est un homme qui a connu les plaisirs, qui a connu les honneurs, qui a eu beaucoup d'ambition, beaucoup de succès dans ses entreprises de pédagogie notamment.
Oui.
Mais c'est aussi un homme que la mort n'a pas épargné, enfin les chagrins, les souffrances.
Oui, tout à fait. La mort du père d'abord qui a été particulièrement douloureuse, Il avait une artérite oblitérante, et ceux qui connaissent un peu ce problème savent à quel martyr le patient est soumis. Il a perdu successivement ses deux frères. L'un, Philippe, s'est suicidé. L'autre, Jean-Claude, est mort bêtement dans un accident de la route. Bêtement parce qu'il pouvait parfaitement s'en tirer. Et c'est une série de catastrophes mineures qui ont provoqué son décès. Il a perdu deux de ses enfants, Arnaud et Colas. Il a perdu sa belle-sœur. Enfin bref. Et il vient de perdre, c'est postérieur à la publication de ce livre, deux de ses quatre femmes, puisqu'il a eu quatre épouses dans sa vie. L'une, la première, est morte à un âge avancé. L'autre, qui était la troisième chronologiquement, s'est suicidée elle aussi.
Oui, c'est tout ça, ça fait effectivement des tragédies dit, dans la destinée oui, d'un homme qui réussit.
Oui,
voilà.
C'est une destinée shakespearienne, il y a tout. Il y a le succès, il y a les plaisirs. Il y a l'angoisse au maximum, portée à son maximum. Il y a la mort, la maladie, la malchance, le bonheur, tout y est. C'est un résumé, c'est ce qui m'a fasciné dans cette existence. C'est un résumé total des malheurs et des bonheurs de l'homme, c'est Shakespeare.
Je ne sais pas si on peut vous comparer à Shakespeare, Jean Baudouis, sans doute, peut-être pas encore. Mais en tout cas, votre livre, en effet, se lit vraiment de manière passionnante pour non pas seulement connaître Denis Huysmans, mais aussi réfléchir sur une destinée humaine. Vous levez un coin de voile de la destinée, vous proposez une réflexion sur la blessure, justement, d'un être sous les apparences. Donc voilà, on a toujours envie d'aller en savoir plus. Donc je ne peux que recommander la lecture du livre de Jean Mauduit, Denis Huysmans, une fin si dévorante, chez Jean Picolec, paru en 2009. Et je rappelle que Denis Huysmans est membre correspondant de l'Institut. À bientôt, Jean Mauduit.
À bientôt, Hélène. Merci,
merci
beaucoup.